Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste ce soir, Delphine Eke.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Delphine Eke.
Le passage d'un liquide à l'état de gaz au moyen de la dilatation de ses molécules par le calorique ou par la diminution de pression. L'ascension lente et graduelle dans l'air d'un liquide qui s'y répand sous la forme de fluide aériforme. Ou encore la transformation des liquides en vapeur à la température et à la pression ordinaire. Voilà comment le litré définit l'évaporation. Mais on connaît le sens métaphorique de ce terme qui désigne aussi la disparition mystérieuse d'un être. Il se trouve que la langue japonaise utilise ce double sens et l'on peut en voir apparaître un épais nuage de solitude lorsqu'on songe aux plus de 100 000 personnes qui disparaissent volontairement chaque année dans le pays. Ce phénomène qui s'est accentué dans la grande période de crise financière des années 90 est le point de départ de votre dernier spectacle, Delphine Eke, où une pluralité de matériaux interroge les traces que l'on laisse, les fantômes qui hantent et la vie avec l'absent. Les évaporés se jouent en ce moment et jusqu'au 23 juin au Théâtre de la Tempête. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On commence avec un extrait.
Tokyo, janvier 2017, chambre 415. Il pleut. La ville, 11 étages plus bas, comme une grande flaque grillée. Il n'y a pas un bruit, le monde juste en dessous s'agite. Je ne supporte pas ce silence, cette solitude. J'appelle chez moi, à Paris. Ça sonne dans le vide. Je laisse un message inutile qui dit que je rappellerai. Et j'allume la petite radio que j'appelle avec moi. Le ciel se confond avec les façades, avec la pluie, avec la monotonie des murs de ma chambre, de la banquette, du lit, de la tapisserie. Tout est gris sauf cette chaise partiellement recouverte de tissu vert. Elle se détache du mur comme si elle y avait été dessinée. Tout reste parfaitement neutre, impeccable, presque irréel. Je suis là pour plusieurs semaines. J'ai envie d'imprégner la chambre de mon odeur, de laisser une trace de moi en partant. Je n'ose rien toucher pourtant. Au Japon, 100 000 Japonais disparaissent chaque année. 100 000, c'est le nombre de piétons qui traversent chaque jour Shibuya Crossing. Là, juste en bas.
Un extrait de votre spectacle Delphine Eke, un extrait en français, un des rares extraits en français, parce que c'est un spectacle qui se joue majoritairement en japonais traduit. C'est la voix de qui qu'on entend ?
C'est la voix de l'acteur Marc Place, qui interprète le rôle du journaliste dans l'histoire.
Et qu'est-ce qu'il fait ce journaliste ?
Le journaliste, il va errer comme ça pendant plusieurs mois dans la ville de Tokyo. Il va essayer d'obtenir des réponses par rapport à ce phénomène donc de l'évaporation. Évidemment, il va dépasser, on va dire, la limite de son travail puisqu'il va être lui-même touché en tant qu'être humain par le phénomène. Il restait peut-être plus longtemps que prévu. Ça n'est pas dit, mais en tout cas, moi, je pense qu'il reste plus longtemps que prévu. Et il va essayer d'obtenir des réponses qu'il n'aura sans doute pas.
Vous êtes parti avec quel genre de questions? Qu'est-ce qui vous a accroché dans ce phénomène dont en effet il y a assez peu question ici en France et que, mais dont on découvre l'ampleur dès qu'on s'y intéresse un peu, Delphine Eke? Comment vous l'avez découvert déjà, ce phénomène d'évaporation?
J'ai découvert le phénomène, c'était il y a longtemps, c'était en 2015, je crois que ça devait être en mars-avril 2015, en lisant un article dans le journal Le Monde qui parlait du phénomène en général, en donnant des chiffres et en donnant des références de livres. Et donc j'ai lu des livres là-dessus, notamment le livre de Léna Mauger, Les Évaporés du Japon, de Stéphane Remal qui est photographe. Et ça m'a donné envie de partir là-bas, moi toute seule, avec une caméra et un enregistreur pour... essayer de voir si je pouvais moi aussi obtenir des réponses sur ce sujet, très peu connu en France, effectivement. Enfin, en tout cas, au moment où je m'y suis intéressée, il était vraiment très peu connu, il y avait très très peu d'ouvrages dessus. Maintenant, c'est en train de changer, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus. Même en France, de la disparition volontaire de personnes, c'est quand même abordé en France aussi, de plus en plus.
Qu'est-ce qui vous a accroché? C'est pas rien quand même, hein, de partir à l'autre bout du monde en se disant « je vais poser des questions, je vais aller faire des images, je vais prendre du son ». Puis partir au Japon, c'est partir toujours très loin.
D'abord, il y a eu la fascination, évidemment. Je peux pas cacher cette chose-là. C'est absolument fascinant, l'idée même de claquer la porte sur sa vie et d'envisager de recommencer quelque chose ailleurs. Ou alors de n'avoir pas le choix, en tout cas d'être au bord du précipice et d'avoir le sentiment de tomber et de tomber dans un autre monde peut-être qui serait moins précaire ou moins compliqué que la vie qu'on s'est construite jusqu'ici. Et je pense que c'est une question universelle et que c'est tout un chacun qui certainement un jour a dû se dire « bon, j'arrête tout, je plaque tout, j'arrête ». Et c'était une période de ma vie où j'étais effectivement très seule et où peut-être que cet article a retenti en moi beaucoup plus fort parce que j'étais dans une phase de vie qui était un peu comme une transition. Et voilà, il y a eu d'abord la fascination et il y a eu ensuite l'envie de parler d'un sujet qui n'est pas du tout abordé ici en France et en Occident en général. Et donc je me suis dit que ça valait le coup d'abord de faire des recherches, de moi-même éprouver cette solitude-là au milieu de la foule à Tokyo, cette errance face à un sujet qui est quand même invisible, puisque les évaporés ne disent pas qu'ils sont évaporés. Et à mon retour en France, ça devenait une évidence pour moi de le mettre en scène, et avec des acteurs japonais, pour justement essayer de raconter cette incompréhension-là que nous avons occidentaux face à un phénomène de grande ampleur. Puisque, comparé à la France, on peut parler de phénomène, en fait, plus qu'en France.
Puisqu'il faut rappeler les chiffres, hein, moi je disais plus de 100 000, c'est pour pas aller trop proche d'un chiffre plus officieux qui est 180 000 personnes évaporées par an au Japon. Donc en effet, rapporté à une population qui serait par exemple la nôtre, c'est énorme. Avant qu'on s'attarde sur tout le travail que vous proposez sur scène, la traduction de, j'imagine, ce voyage et ses recherches, Delphine Eke, est-ce qu'on peut essayer de raconter comment c'était? Qu'est-ce que c'est que d'être très loin de chez soi, dans un pays où généralement quand on débarque on pige rien, on comprend pas la langue, on comprend pas beaucoup des codes de l'organisation de la vie sociale, et s'intéresser à un sujet invisible, absent, on imagine aussi qu'il touche parfois à la douleur des familles, quand ce n'est pas la honte et le déshonneur? Vous avez fait quoi concrètement de vos journées?
J'ai véritablement erré. Ce qui est très difficile parce que errer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Raymond Depardon en parle très bien dans un livre qui s'appelle Errance, où il explique son travail de photographe dans ce livre très très bien, où il essaie de dire qu'en fait quand on s'arrête pour prendre une photo, de toute façon on quelque part on justifie l'errance. Comment on ne justifie pas l'errance? Comment on s'attarde dans une ville qu'on ne connaît pas et on essaie de s'imprégner des choses qui se passe autour de soi. Aujourd'hui, on a très peu l'occasion de le faire. C'est dommage. Moi, j'essaye dans mon travail d'auteur de tout le temps mettre en œuvre les conditions autour de moi pour justement pouvoir, entre guillemets, ne pas justifier tout le temps une recherche, enfin un voyage. Disons que je savais que je voulais obtenir des réponses et en même temps, il me fallait bien ne rien attendre pour peut-être obtenir des réponses. Donc concrètement, c'est un état de solitude extrême, puisque je ne parle pas japonais, que les Japonais parlent très peu anglais, enfin même quasiment pas, et que je me suis moi-même mise dans un état de... comment dire, de...
Plus que de solitude, je me suis privée de toutes les choses qui pouvaient me sauver de cette solitude. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, et je pense que c'est plus qu'un acte manqué, je suis sortie de l'avion en arrivant à Tokyo et je n'avais pas noté l'adresse de mon logement. Et je n'avais plus de batterie sur mon téléphone et je me suis retrouvée, ça a commencé comme ça le voyage. Je me suis retrouvée tellement étrangère, tellement seule, que j'ai dû essayer de communiquer avec des gens, j'ai dû m'octroyer la possibilité de me perdre. Mmh. Et me perdant, alors, essayer de ressentir plus que de comprendre qu'est-ce que c'est alors de ne plus avoir de nom, de ne plus pouvoir parler une langue. Les gens s'en fichent, ils ne savent pas qui je suis, j'ai pas d'amis là-bas, je ne suis plus rien. Donc ça posait la question d'identité, qui est une question que je me pose depuis le début de mon travail en tant qu'auteur et metteur en scène, et que j'avais envie de poursuivre avec Les Évaporés, qui pour moi est, au-delà de la fascination de la disparition en elle-même, une façon de questionner la construction de nos identités où qu'on soit dans le monde.
À savoir, qu'est-ce qu'on quitte exactement quand on quitte, quand on s'évapore? Est-ce qu'on s'évapore d'une identité, d'une place, dans une famille, dans une société, dans un travail? Vous dites, finalement, je me privais de tous les recours qui pouvaient me sauver de la solitude, y compris l'écriture?
J'en étais pas du tout à cet endroit-là au moment où j'ai voyagé. Je ne savais pas si j'allais pouvoir écrire là-dessus.
Des prises de notes ou juste une manière de, comme ça, renseigner le réel ou...
Non, je devenais vraiment à ce moment-là du travail, vraiment une éponge, quoi. C'est-à-dire que tout était tellement fascinant, tout était tellement fou, que si j'avais dû prendre des notes, j'aurais passé mon temps le nez collé à un carnet ou j'aurais pas regardé le paysage, en fait. C'est-à-dire que là, je l'ai laissé le paysage défiler sous mes yeux pendant ces 15 jours où je suis restée là-bas. Et, j'ai été foudroyée, en fait, par la différence, en fait, de cette culture-là et de la langue et puis de cette ville qui peut effectivement avaler les gens et qui aurait pu m'avaler moi aussi si j'avais vécu là-bas, je pense. Je l'ai ressenti très fort et je l'ai ressenti très fort justement parce que je ne justifiais pas, entre guillemets, en prenant des notes, en étant comme ça à l'affût d'une information qui n'était pas du tout le but de mon voyage. Je voulais rester comme à l'écart un peu de tout ça, m'en imprégner, c'est ce que dit le journaliste dans l'histoire, m'en imprégner, peut-être laisser une trace de moi en partant aussi, mais j'aurais pas laissé une trace en prenant des notes. Après, j'ai cherché quand même à obtenir quand même à dialoguer avec des gens que je pouvais rencontrer sur mon passage, quoi. J'avais rédigé deux interviews pour pouvoir communiquer avec les gens, donc j'avais fait traduire en japonais.
Et quelles étaient vos questions?
Alors c'était bien particulier parce que c'était pas des interviews qui auraient donné la parole à des gens qui réellement s'étaient évaporés, mmh, ou étaient des proches d'évaporés. Mais je commençais déjà à imaginer une fiction parce que je proposais aux gens deux interviews, donc, et en leur proposant de ne pas me dire la vérité. C'est-à-dire d'imaginer qu'ils étaient évaporés ou bien d'imaginer qu'ils étaient un proche d'évaporés. Donc ils étaient déjà des personnages, en fait. Ce qui les protégeait aussi de mes questions. Et dans les questions que je posais, il y en avait environ une dizaine, très précise, et il y en a notamment quatre dont je me souviens précisément, et sur les 10 interviews que j'ai pu recueillir, tous ont évité ces quatre mêmes questions que je peux vous donner. C'est: êtes-vous heureux? Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté? Qu'est-ce que c'est pour vous le déshonneur? Et pourquoi ne pas avoir choisi de mourir? Et étonnamment, les 10 personnes ont évité ces quatre questions, ce qui du coup était très éloquent.
Vous leur laissiez le choix de le faire?
Oui, et puis je ne comprends pas le japonais, donc ce qui était intéressant, c'est que je ne pouvais pas interagir avec eux au moment de ces interviews. Je pouvais juste donner le papier sur lequel étaient écrites les questions, et ensuite tout découvrir en rentrant. Donc je devenais le réceptacle de confidences, parce que ça devenait des confidences, même si c'était des fictions, en fait, les réponses. Mais c'était amusant comment, en rentrant, quand j'ai découvert ça... Après coup, je me dis, en fait, je pense que si j'avais parlé japonais, ils auraient certainement pas évité ces questions. Et c'est parce que je suis française, qu'ils savent que je parle pas leur langue, que par pudeur, ils ont choisi de ne pas répondre. Donc ça en disait long, en fait, sur le tabou du phénomène, sur quelle place je voulais donner au rôle du journaliste aussi dans l'histoire, à ce personnage qui est comme un fil rouge et
et qui nous aide, enfin qui nous accompagne en tout cas en tant que spectateur à ressentir ce que moi j'ai pu ressentir.
Et puis notamment par un procédé très fort d'identification, c'est que non seulement il parle une langue qu'on comprend, en tout cas majoritairement nous, dont spectateurs et spectatrices, et puis bizarrement c'est lui l'étranger en fait. Sur la scène, c'est lui qui est étranger.
C'est ça.
Et donc on se retrouve par la voix notamment de sa langue à cette place de l'étranger. Ces questions-là, est-ce qu'elles étaient pour vous très liées à votre découverte du phénomène des évaporés, ou est-ce que d'une certaine manière, elles outrepassaient largement ce phénomène, Delphine Eke? Lorsque vous décidez de mettre, par exemple, est-ce que vous êtes heureux? C'est quoi pour vous le déshonneur? Pourquoi n'avez-vous pas choisi de vous tuer? Si on oublie complètement les évaporés, ce sont des questions qui tiennent.
C'est, de toute façon, je pense qu'il faut être relié à son sujet personnellement pour écrire. C'est ce que je crois profondément. Et évidemment, c'est des questions que moi, je me posais. Et que je me pose toujours, d'ailleurs. Je poursuis dans mon travail d'écriture cette question-là de l'identité. Qu'est-ce qu'on fait là? Qui on est? Qu'est-ce qui nous construit? L'évaporation, c'est un symptôme. D'ailleurs, il y a un personnage qui dit ça dans la pièce aussi, qui est une chanteuse de cabaret qui a perdu sa fille, qui s'est évaporée il y a 9 ans, et qui va tenter de revenir. Mais elle lui dit ça, elle lui dit que la... Enfin, elle dit ça au journaliste, elle lui dit que l'évaporation est comme une catastrophe naturelle. Qu'en fait, la faute, en vérité, n'appartient à personne.
Ce qui, au Japon, a une résonance toute particulière, en plus.
Oui, et donc... C'est fou, ça donne le vertige en fait, tout ça. Moi, ça m'a donné le vertige, mais ça a surtout soulevé des questions très personnelles, très intimes, sur comment on mène nos vies, sur quoi on s'attarde, comment on écoute les autres, qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui, parce qu'on parle de caractère, on parle d'éducation, on parle beaucoup de ça. Enfin, on est comme si on était conditionné par notre éducation uniquement.
Et... Oui, parce que c'est une pièce qui questionne aussi l'illusion de la compréhension. Est-ce qu'un jour on va comprendre pourquoi ils se sont évaporés? En fait, la pièce dit beaucoup que c'est pas si sûr, en fait.
Non. Et c'est pas forcément l'intérêt, d'ailleurs, de cette question-là. Souvent, quand on a pu faire des bords plateaux en tournée, quand on l'a tourné il y a environ 2 ans.
Les bords plateaux, c'est des moments de discussion et d'échange avec le public.
C'est ça. Et les spectateurs, souvent, restent un peu, sur cette incompréhension-là. C'est-à-dire, ils vont chercher à comprendre aussi, et dès qu'ils ne comprennent pas, ils ont du mal à franchir la frontière avec l'imaginaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire, d'ailleurs, ça. Qu'est-ce qu'on se raconte quand quelqu'un part? Comment fait-on le deuil, si c'est possible? Comment fait-on le deuil de quelqu'un dont on n'a plus aucune nouvelle? Donc, l'imaginaire est bien fait. En tout cas, si on lui laisse du temps pour se manifester, l'imaginaire, a priori, peut aider, en fait, à traverser cette épreuve de l'attente, du deuil impossible. Et je pense que du côté, donc, de ceux qui restent, mais du côté des évaporés, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'on puisse claquer la porte sur sa vie? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi quand on décide de passer le cap? Parce qu'on dit, souvent, on n'a pas le choix. Enfin, ils n'ont pas le choix, ces gens-là. Je sais pas, j'en sais rien. S'ils n'ont pas le choix, peut-être que justement, ils se laissent cette liberté-là de se dire tout est possible maintenant.
Justement, pour continuer de s'attarder un tout petit peu avec vous, Delphine Eke, sur ce moment-là et sur le rapport à la liberté, je trouve assez intéressant que vous commenciez par nous parler de l'errance et de ne pas avoir à justifier l'errance et du fait que ça, c'est quelque chose qui s'est passé pour vous. Très 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 loin de votre endroit de vie quotidienne. Bref, c'est au Japon où vous avez pu errer et vous perdre, comme si ça nous disait aussi en sous-texte, et vous êtes une femme, je le souligne, que c'était quelque chose de très difficile ici, que de pouvoir errer librement, s'autoriser l'errance, ne pas justifier un pas à la dérive, ne pas justifier une existence sans projet. Était difficile.
Oui, c'est difficile parce que tout va très vite aujourd'hui et que souvent l'errance, elle est associée à la paresse. Donc on a peu d'occasion de pouvoir dire je m'en vais et je ne fais rien. À qui dit-on ça? Et même si on le dit à la personne avec qui on vit ou à notre famille, c'est toujours associé à une souffrance. la solitude, en fait, puisque l'errance, je pense, elle s'explore grâce à la solitude, je pense. Enfin, si on arrive à errer à deux, alors chapeau, je veux bien savoir comment on fait, mais en tout cas, je pense qu'elle est nécessaire, et je pense que dans nos vies, on a du mal à trouver du temps, enfin, en tout cas, on prend le prétexte du temps, comme quoi on n'en a pas assez pour ne pas errer. Et pourtant, on en a besoin. On a besoin de ne plus justifier tout ce qu'on fait dans nos vies. C'est pas possible, en fait. Sinon, on est tout le temps au travail de soi-même, en fait.
Et c'est aussi la possibilité de s'extraire. Enfin, bien sûr que c'est un spectacle où il est aussi beaucoup question de la souffrance, mais on sent qu'il y a aussi une ouverture de qu'est-ce que ça offre, la possibilité de s'extraire, quoi.
Ça va être une expérience très personnelle pour chacun. D'ailleurs, on voit combien aujourd'hui ça devient de plus en plus important dans nos sociétés, puisqu'il y a plein de retraites qui sont organisées, des retraites en silence, dans des monastères, des marches silencieuses,
des cures de déconnexion.
Des cures de déconnexion, comme s'il fallait vraiment, passer de l'autre côté, c'est-à-dire une espèce d'urgence comme ça d'aller mieux dans notre monde. Ça passe par des toutes petites choses. Je pense qu'on peut déjà commencer à errer dans notre quotidien sans être forcément obligé de s'extraire aussi loin pour mieux observer. C'est-à-dire, en fait, s'arrêter sur le bas-côté, comme je dis quand je prends des photos, parce que je prends énormément de photos argentiques depuis toujours. Et en fait, ce geste-là de devoir s'arrêter, puisque on ne peut pas, avec un appareil argentique, avoir la même rapidité d'exécution qu'avec du numérique. Et ce regard-là, ce temps-là qu'il faut pour observer... Et je pense l'endroit d'équilibre exact pour exister.
Le vôtre, en tout cas.
J'essaye.
Tout est trace. Peut-être c'est simplement la valeur symbolique de quelque chose. Enfin, c'est pas la chose, c'est... Mais peut-être qu'on peut dire que la parole est trace également. Enfin, que le langage est trace, que toute sorte d'art est trace. Mais peut-être ce qui est important dans la trace, c'est aussi l'absence. Parce que la trace nécessite forcément qu'il y ait une absence. Et elle est intéressante que parce qu'elle suggère quelque chose qui n'est pas là. Enfin, la trace, c'est l'absence. C'est également peut-être le premier élément reconnaissable. Bon, il y a le vieux cliché, on marche dans la neige, puis on voit les pas d'un animal. Le trappeur sait qu'il s'agit d'un loup ou d'un lapin. Donc c'est évidemment le plus petit indice qui permet de reconstituer une réalité... Disons, l'empreinte de la patte d'un animal est la figuration de l'animal. C'est-à-dire quand on voit cette empreinte, on voit aussitôt l'animal. Alors que ça n'a aucun rapport, que c'est simplement c'est l'image de l'animal. Et la trace, c'est l'image de la réalité. Quoi. Tout art est trace puisque c'est, disons, stimuli de réalité. Bon, pour parler de trucs que je fais en ce moment, par exemple, là, j'ai fait une série de travaux qui s'appelle « Images stimuli ». Qui sont des traces. Bon, c'est des photographies très bien faites d'objets. On les reconnaît tout de suite, comme on reconnaît la trace du loup dans la neige. Mais ces objets évoquent plein d'autres choses. C'est la trace d'une expérience. En plus, il y a peut-être ce désir de reconstituer, comme pour les archéologues, ou pour quand on retrouve un animal préhistorique, on a un tout petit bout de queue, ou justement son empreinte, et à partir de ça, on reconstitue tout un monde.
C'est Christian Boltanski, en 1978, une archive diffusée sur France Culture, Delphine Eke. Finalement, le mot trace est intervenu très rapidement dans notre entretien, qu'il s'agisse de l'extrait de votre spectacle Les Évaporés et ce journaliste français esselé qui débarque dans sa chambre d'hôtel à Tokyo et qui tout de suite se dit « je vais pouvoir laisser peut-être une trace ici » et puis la trace des personnes qui disparaissent volontairement et puis ce que vous disiez vous de votre errance au Japon et de l'idée aussi que peut-être ce court passage-là pourrait laisser une trace. Alors vous apportez quoi ? Et puis ensuite, bien sûr, dans le spectacle... tout ce travail presque de détective autour des traces laissées par les personnes qui partent. Vous apportez quoi comme importance à ça, à l'idée de la trace ?
C'est une question très, très, très vaste et en même temps essentielle parce que je pense que si on choisit d'écrire et si on choisit de mettre en scène, mais d'écrire c'est encore peut-être sans doute plus fort, on choisit de laisser quelque chose aux autres après nous. C'est plus que d'ailleurs que, qu'une question narcissique de vouloir laisser quelque chose de soi en partant et de dire ben voilà j'étais là, hein, j'existais. Après tout, c'est bien aussi de disparaître dans les limbes et puis de que les gens nous oublient. Mais je pense en tout cas que ça rejoint encore une fois la question de l'identité, parce que quand on choisit de s'évaporer, enfin en tout cas quand on s'évapore, on renonce à une identité. Donc on renonce aussi à la trace qu'un nom et un prénom légal laissent sur une sépulture, par exemple. Donc, c'est, on voit bien combien l'identité, ça commence par le nom et le prénom, nous identifie et nous place, nous donne une place dans le monde. Moi, j'espère que l'identité ne se réduit pas à ça et devient quelque chose beaucoup plus vaste et beaucoup plus, on va dire. Oui, beaucoup plus beau, avec quelque chose qui nous dépasse et qui serait une trace artistique, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Après, dans le spectacle, ça revient à plusieurs moments. Il n'y a pas que le personnage journaliste qui l'évoque. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Miko, qui est le nom d'une reine japonaise, qui est une sorte de clocharde céleste. Et qui explique qu'elle est en train de pleurer et que en fait les larmes régulières de ses yeux tombent et tracent un petit cercle sombre devant elle, et en fait les gens qui passent à côté d'elle pensent que c'est de l'urine, et donc elle explique que pour elle cette trace c'est la trace de sa souffrance, par exemple. Donc c'est une trace éphémère. Après dans mes travaux, ce que j'aime faire, c'est effectivement laisser des choses aux acteurs, par exemple, des traces du travail, des archives, en fait.
C'est-à-dire?
Tout va très vite quand on monte un spectacle, en fait. On doit parler aux acteurs, on doit monter un décor, on doit monter une production. Enfin, c'est une vaste entreprise. Mais qu'est-ce qu'on leur laisse concrètement à eux qui travaillent avec nous? Moi, je pense que c'est intéressant de toujours laisser des éléments, donc des matériaux comme des photographies, des objets. Enfin, pour moi, la puissance des objets est très forte. Et d'ailleurs, au Japon aussi, puisque les objets ont une âme. Chaque élément du plateau, etc., a une histoire dans le spectacle.
Par exemple, si bien que ça donne... Excuse-moi.
Oui, par exemple, le nez de clown, qui est une sorte de facétie quand même dès le début du spectacle, où le personnage qui s'évapore dès la première scène met un nez de clown et nous regarde et l'image disparaît. Il se photographie lui-même, en fait. Il y a quelque chose qui s'imprime dans l'image pour nous. Et ce nez, on le retrouve 4 ans plus tard dans un sac, et ça ne devient qu'un élément uniquement... qui fait partie d'une procédure. On retrouve le sac et on compte les objets qu'il y a à l'intérieur du sac et on vérifie que ça appartenait bien à cette personne qui s'est évaporée. Alors que pour nous, c'est trop tard. On est déjà, on a vu une fois cet élément dès la première scène et on est touché. Ça devient l'élément, la trace que laisse effectivement ce personnage d'évaporer.
Pour nous et pour tous les proches, parce que c'est aussi intéressant. Je pense à ce moment justement où des objets sont comme ça énumérés, sortis d'un sac sur une table. Et alors pour un détective, pour un policier, pour nous spectateurs qui ne connaissons pas nécessairement l'évaporé, il peut y avoir une forme de froideur à la vue de ces objets, mais c'est quelque chose qui va être réchauffé dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a de l'histoire, dès qu'il y a du lien. Et on sent bien qu'un objet qui se pose sur une table, ça peut être 15 ans qui débarquent, ou ça peut être une après-midi de printemps, ou ça peut être un repas. Comment est-ce que vous avez travaillé justement la magnétisation des objets dans la mise en scène, Delphine Ecker? Je pense aussi, par exemple, à tout ce que cette clocharde céleste porte sur elle. On sent que voilà, rien n'est innocent, quoi.
Oui, c'était important pour moi, en tout cas, de faire ressentir au spectateur un avant et un après. C'est-à-dire comment l'objet va nous survivre. L'objet a une espérance de vie bien plus grande que les êtres humains. Enfin, ça dépend quels objets, mais en général... Les bons objets de bonne qualité nous survivent. Mais même un nez de clown, je pense, peut nous survivre. Donc c'est assez terrifiant de se dire ça. J'ai essayé en tout cas de donner, déjà par le texte, des outils aux acteurs pour qu'ils puissent se raconter des choses dans les ellipses qui sont faites dans l'histoire. Puisque catapulter un personnage 4 ans après, ça n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience de ça en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène, de dire à un acteur, bah là en fait tu as l'enjeu de commencer le spectacle et ça se passe 4 ans avant, et ensuite on te retrouve 4 ans plus tard dans un autre état. Ces objets, à quoi servent-ils maintenant? En fait, ces objets ont quelque chose à dire de lui, mais pas seulement de lui, du temps qui est passé, et ce temps raconte le deuil impossible. Donc ils ont aussi une puissance narrative très forte. Donc c'était des outils dramaturgiques qui permettaient de raconter l'absence. Donc par exemple ce sac, bon, qui était un entre guillemets un bon exemple dans le spectacle, puisqu'effectivement ça peut nous rappeler ce qu'on peut vivre, par exemple quand on déballe des affaires de nous à l'aéroport, qu'on a embarqué avec nous des choses qui sont interdites, des choses qui nous semblaient complètement anecdotiques, et que tout d'un coup on sort comme ça nos affaires. C'est, enfin moi ça me fait toujours quelque chose. Je trouve ça
comme un dévoilement.
Comme un dévoilement, comme je peux pas m'empêcher d'imaginer que les gens autour de moi se disent ah oui elle a ça dans son sac, d'accord, bon. ça raconte quelque chose de nous, mais c'est ce déballage en fait qui est intéressant. Et donc au moment où le sac s'ouvre devant la fille de cet homme, donc qui est évaporée depuis 4 ans, j'imagine la douleur que ça doit représenter de voir tout simplement des objets. C'est-à-dire, les objets, donc, disent tant que ça de nous. Je pense que quand on perd quelqu'un, si on retrouve sa chemise, enfin, les premiers moments où on perd quelqu'un, on va avoir du mal à ouvrir le placard pour toucher les vêtements. En touchant un vêtement de quelqu'un qui a disparu, on réentend sa voix. En montrant un vêtement qui n'est plus habité, on va se souvenir du corps qui était à l'intérieur. Donc oui, bien sûr, les objets ont une valeur émotionnelle très très puissante, enfin, à mon avis.
Comment vous avez procédé, Delphine Eke? Est-ce que toutes ces histoires, vous les avez complètement inventées? Est-ce qu'elles ont été nourries par des parcours, en effet, parce que tout à l'heure, vous nous racontiez dans ce voyage au Japon que vos rencontres n'étaient pas forcément avec des personnes proches d'évaporer ou évaporer, évidemment, elles-mêmes. Alors ces histoires singulières, elles viennent d'où?
Elles viennent de mon imaginaire. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ce phénomène, donc je travaille sur ce projet au même titre que sur d'autres projets qui sont pas tirés de phénomènes réels. Après, je me suis beaucoup appuyée sur les choses que j'ai pu lire et surtout le voyage que j'ai fait et ma rencontre avec les acteurs, parce que ce sont des Japonais qui vivent en France, ils parlent français, donc on a pu échanger. Et puis on a fait un mois de travail de recherche au plateau. Où ils improvisaient, donc en japonais, donc je comprenais rien au moment de ces impros, mais j'ai pu comprendre ensuite, on m'a traduit les images. C'était assez fou, parce qu'en fait moi j'avais des milliards de questions à leur poser, mais en fait finalement c'est en les observant, encore une fois, être dans cet état d'errance, de ne pas comprendre. Il y a plein de scènes qui sont nées de cette incompréhension là, c'est-à-dire entre le moment où j'ai regardé les scènes et le moment où on m'a traduit ce qui était dit ces scènes improvisées, je m'étais moi raconté une histoire. Comme quand on part dans un pays dont on ne parle pas la langue, en fait. On devient un observateur très intéressant, puisqu'en fait, on va s'arrêter sur des détails, on va essayer de comprendre l'humain, ce qui se joue dans une conversation avec des repères qui sont très précaires, qui sont très proche de l'état d'enfance quand on ne sait pas encore parler. Donc en fait, on fait appel à notre imaginaire et on essaye de saisir, de s'emparer de la moindre petite information qui pourrait nourrir notre compréhension. Et donc j'ai travaillé comme ça, beaucoup avec ma propre incompréhension et mon propre imaginaire là-dessus. Après, tout ce qui est des références et tout ça dans le spectacle, ça, je me suis appuyée sur des articles et sur les livres que j'ai pu lire.
Quand vous dites j'avais plein de questions à leur poser, à ces comédiens et comédiennes, donc qui sont japonais mais qui vivent en France, donc qui ont aussi cette part d'exil dont on parlait, éventuellement de solitude qu'on suppose à l'exil, ou en tout cas d'éloignement, d'extraction d'un milieu qui nous est, et d'une langue qui nous est familière. Ça veut dire que vous supposiez qu'ils avaient des choses à vous apporter sur cette question de la disparition volontaire et des évaporés, parce qu'ils étaient japonais?
Je n'attendais rien d'eux. Particulièrement. Je me laissais, je nous laissais le temps de la rencontre. C'est-à-dire que je peux imaginer que s'ils ont quitté leur pays pour venir s'installer à l'autre bout du monde,
ils ont peut-être des choses à vous dire là-dessus.
Oui, en tant que, même s'ils ce ne sont pas du tout des évaporés, mais je pense que quand même la distance et le choix de vie d'aller s'exiler vraiment beaucoup plus loin que son lieu d'origine, je pense que c'est déjà en soi une façon de me répondre, c'est-à-dire j'ai eu besoin de partir. Après le temps de la rencontre est long, et surtout parce que ce sont des gens très élégant et très dans la retenue, les Japonais, bien plus que nous. Enfin, en tout cas, ils mettent plus de temps pour se familiariser les uns et les autres. Donc moi, j'ai laissé ce temps-là et je me suis dit au bout d'un moment que c'était parfois par leur silence aussi que je comprenais la douleur que ça pouvait représenter de quitter plus qu'un pays, de quitter une culture et donc une façon de penser. Parce que dans une langue comme le japonais, on ne peut pas formuler de la même façon ses pensées. La langue ne l'autorise pas, aussi bien qu'en français parfois. On ne peut pas tellement exprimer ses sentiments en japonais, en tout cas pas de la même façon qu'en français. On est beaucoup plus passif dans la grammaire de cette langue en japonais qu'en français. Donc c'est... Notre rencontre, elle s'est faite aussi au moyen de nos, je peux pas dire de conflits, mais d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on avait, je leur disais parfois, mais oui, mais ce personnage-là, il doit dire à son enfant, je ne t'aime plus parce que je t'ai trop attendu. La traduction japonaise n'est pas possible de cette phrase. Parce qu'on ne dit pas je t'aime, alors on ne dit pas je ne t'aime plus. Donc comment fait-on pour traduire cette phrase? Donc c'est parfois dans les questions que eux me posaient que j'en apprenais beaucoup.
C'est-à-dire?
Bah, ils me demandaient pourquoi tu écris ça, Delphine? Pourquoi tu fais dire à mon personnage je ne t'aime plus, je t'ai trop attendu à mon enfant? Il n'y a aucun espoir. Je dis au contraire. C'est-à-dire que si on attend autant de temps, 9 ans, quelqu'un qui semble ne pas revenir, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce que vous vous diriez? Et là, j'ai eu des réponses. J'ai senti à quel point c'était difficile, en fait, pour eux de rentrer dans l'intimité de ce phénomène, de ne pas rester à l'écart et de devoir se confier, de devoir parler de soi.
Mais sauf qu'il n'y a pas que des dimensions intimes à ce phénomène-là, et je précisais en introduction que c'est quelque chose qui a connu un essor particulier autour d'une crise financière. Le spectacle dit aussi très bien combien ça peut être lié à la solitude éprouvée dans un travail ou à une ville qui écrase, qui fait disparaître, une ville massive. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la construction sociale. Ça a lieu là-bas, c'est pas rien. C'est pas un hasard, même si le hasard, vous aimez ça.
Non, c'est pas du tout un hasard, hein, mais encore une fois, je suis pas une spécialiste de ce phénomène. Ce que j'en sais, c'est qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est que, effectivement, au moment de la crise financière dans les années 90, la mafia s'étant emparée des trois quarts de l'immobilier à Tokyo, les familles avaient de plus en plus de mal à se loger et se sont évaporées parfois par famille entière. En faisant la plupart du temps appel à des évaporateurs, donc des gens qui aident les autres à s'évaporer, moyennant une somme assez conséquente. Donc ça, c'est bien particulier, puisque il y a cette chose-là de s'évaporer en famille à un moment de crise financière, donc un moment historique, et s'évaporer pour des raisons de culture, qui, enfin en tout cas d'une société qui pèserait trop sur l'être humain, comme on le voit avec les histoires de licenciements où ces Japonais qui restent postés devant leur entreprise pendant tout le mois jusqu'à ce que la paye ne tombe pas et qu'ils prennent le métro en sens inverse et ne rentrent pas chez eux et ne rentrent jamais et deviennent des évaporés. C'est même pas qu'ils s'évaporent, c'est qu'ils deviennent des évaporés du jour au lendemain, en fait.
C'est peut-être une des choses qui m'intéresse le plus au théâtre, c'est l'idée que le public est souvent conscient. Ça, c'est vraiment la force du théâtre, hein, une des forces. Il est conscient des différentes couches. Il voit les couches successives. Il voit la théorie. Le public le voit. Il voit la proposition du metteur en scène. Il voit la proposition de l'acteur. Il voit l'élément esthétique. Le public peut découper. N'importe quel spectateur arrive à découper au bout d'un moment les différentes strates. Et au fond, c'est cette conscience des strates qui crée aussi l'émotion. Ce n'est pas en essayant de faire croire au public qu'il existe, qu'il y a un seul et même ensemble complètement cohérent. C'est en lui proposant aussi de lui-même pouvoir faire la jonction de ces strates qui crée aussi une émotion. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. En tout cas, en tant que spectateur, c'est ça qui peut m'émouvoir.
Rōdoku no jikan desu. Uchida Hyakkencho. Tokyo Nikki yori. その人が琴の手を止めないで静かな声で言った
人の乗っていない自動車
さあやめないで佐々木行きましょうどうもありがとうあなたは誰ですか私は今坂の下から上がってきたのですそれよりも調子の変わるところの前が合いませんねうまく合いませんねあそこは私一人でやってもやめない
それで引き直してすっかりうまくいったので、その後何度も何度もやってもらった。身内が熱くなるような気持ちで
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Delphine Eké.
Un petit montage signé Lise Marie Barré dans un disque qui s'appelle Journal de Tokyo par Yuko Nexus. Et juste avant, la voix de Julien Gosselin au micro de Romain de Bec de Lièvre en janvier 2019 dans Par les temps qui courent, qui parle de son plaisir du théâtre à voir apparaître ou à faire apparaître et à être conscient de plein de couches différentes. Delphine Eké, dans Les Évaporés, non seulement il y a un matériau pluriel, hybride, dont on sent, et vous le disiez depuis le début de l'entretien, qu'il est pétri de votre voyage, de vos lectures. Mais en plus, votre mise en scène en tant que telle a plusieurs couches, notamment au travers de cette espèce de paravent, qui peut rappeler le paravent des intérieurs japonais, et qui est parfois opaque, parfois pas, parfois surface de projection, parfois au contraire quelque chose au travers de quoi on peut voir. Si bien qu'il se passe plein de choses parfois. Sur le plateau. Qu'est-ce que vous donnez comme valeur, ou qu'est-ce que vous attendez de justement cette profusion des matériaux?
L'idée, c'était de plonger le spectateur dans l'histoire du journaliste, dans quelque part un peu dans sa tête, même si je voulais pas souligner ça forcément dans le spectacle de manière très forte, mais je voulais qu'on puisse percevoir les passages, l'errance, la fameuse errance, donc passer devant, passer de l'autre côté, franchir une frontière, donc cette immense paroi qui occupe toute la largeur du plateau et qui le sépare en deux. C'est pour moi une sorte de représentation aussi de la frontière qu'il y a entre ceux qui restent et ceux qui partent. Après, c'est encore une fois quelque chose que moi je m'invente, et je pense que les spectateurs peuvent s'inventer des tas de choses avec cette scénographie qui permet à la fois la transparence et l'opacité, comme ce que ressentent les personnages dans l'histoire. C'est-à-dire que des fois, tout est limpide, on est en phase avec là où on est dans notre vie, et puis tout d'un coup, le ciel s'obscurcit et on perd tout ce qu'on avait jusqu'ici construit. Et encore une fois, c'est aussi lié à la question de l'imaginaire que moi, je me raconte. C'est-à-dire que, est-ce que ce que l'on voit est vrai ? Ça pose la question du réalisme, qui est une question fondamentale au théâtre. Qu'est-ce que je choisis de représenter ? Est-ce que je choisis de représenter exactement une ville, ou plutôt la sensation d'une ville ? Comment on représente au théâtre l'odeur d'un pays étranger, qui est quelque chose de très fort quand on est français et qu'on part à Tokyo ? C'est pas du tout la même atmosphère, mais au-delà du paysage visuel, c'est le paysage aussi sonore et sensible qui est très surprenant. Et je voulais vraiment qu'on ait accès à ça, qu'on ait la sensation de voyager dans le spectacle. Donc moi je suis pas forcément quelqu'un adepte de la vidéo dans les spectacles. Enfin, en tout cas, la vidéo, si elle est prise uniquement comme décor, c'est toujours quelque chose qui me gêne. Et j'en ai supprimé beaucoup parmi toutes les vidéos qu'on avait filmées pour le spectacle, j'en ai supprimé quasiment la moitié. J'ai réduit à l'essentiel. Ça me semblait intéressant de pouvoir quand même laisser des interviews. Alors c'est pas des vraies interviews, ce sont des acteurs qui jouent ces passages-là, même si les spectateurs pensent toujours que ce sont des interviews réelles.
Probablement parce que vous faites en sorte qu'on croit ça.
Oui, il y a dans les images quelque chose effectivement qui est encore amateur, enfin qui laisse penser que il y avait de la place à l'imprévu au moment où ça a été enregistré. Mais ces images prennent toute la place. Elles occupent, comme ça peut occuper dans l'imaginaire d'une personne qui attend le retour de quelqu'un qui s'est évaporé, ça va occuper aussi toute la place pour nous, spectateurs. C'est-à-dire que ça envahit tellement l'espace que ça nous obsède de la même façon que, par exemple, cette mère qui sans cesse revoit sa fille évaporée depuis 9 ans dans des images fantasmées. Elle imagine sa fille qui revient pour lui dire « ne me cherche plus », par exemple, comme si ça allait l'aider à faire son deuil. Ça nous obsédera, je l'espère, autant qu'elle. Dans le sens où, si ça nous obsède autant qu'elle, on aura de l'empathie et on aura envie de s'intéresser à ce qu'elle ressent. Donc la scénographie, enfin le paysage théâtral doit, à mon sens, essayer d'aider le spectateur dans son écoute et le plonger dans un autre univers, le sortir de sa réalité, de son quotidien.
Et ce plongeon-là, il passe notamment par parfois des successions de couches sonores, notamment quand on est au milieu de cet immense carrefour Shibuya, où en effet il y a 55 secondes où la circulation se suspend, mais pour laisser place à une autre circulation qui est une marée humaine de personnes qui traversent comme ça un des plus grands carrefours du monde, et au milieu, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, cette femme clocharde céleste comme vous le décriviez tout à l'heure, Delphine Equet, qui dit des choses, qui est presque une sorte de prophète qu'on n'entend pas, qui dit ce à côté de quoi on passe, qui dit si vous étiez capable d'écouter d'autres traces, par exemple celle du vivant, de la nature, elle a quoi comme place dans votre tête, dans votre imaginaire, cette femme-là ?
Une place essentielle. C'est difficile, hein, je le disais tout à l'heure, hein, d'être de chercher les choses fondamentales dans nos vies. Dans notre vie, c'est très difficile. Le théâtre permet d'inventer des histoires qui laissent la parole à des gens qu'on entend peu ou qu'on n'entend pas ou qui ne pourraient jamais dire ça. C'est un peu comme les fous chez Shakespeare qui disent la vérité. Les fous disent toujours la vérité. J'avais besoin d'un personnage qui puisse nous sortir, nous spectateurs, de l'aspect documentaire que des gens pourraient voir dans ce spectacle, ce que je ne voulais pas faire.
Juste suivre des enquêtes, voilà. Attendre que les gens reviennent, savoir qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à quitter le concret de ça, parce que évidemment, comme c'est inspiré d'un phénomène réel, on peut se dire, voilà, on va avoir des réponses, nous, spectateurs, on va pouvoir essayer de comprendre et tout ça. Je pense que remettre du rêve à l'intérieur de ça, c'était essentiel. Et ce personnage d'Imiko, qui est interprétée par une comédienne qui s'appelle Kana Yokomitsu et qui est assez proche dans la vie du personnage qu'elle interprète. Elle croit aux vies antérieures, par exemple. Donc c'est beaucoup les discussions que j'ai pu avoir avec elle qui ont inspiré ce personnage. Mais c'est quelqu'un qui, du coup... Enfin, je me souviens que je lui ai posé une question un jour. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es jamais malheureuse, alors, si tu
crois... À la comédienne ou à la femme ?
À la comédienne. Mais qui est une comédienne très proche de son personnage dans l'histoire. Et elle me disait, ah non, moi, je ne peux pas être malheureuse. Et je lui ai dit, mais c'est génial, en fait, de croire à toutes ces vies. Parce qu'elle me dit, en fait, je règle tout en imaginant que ma vie antérieure, enfin si je suis là aujourd'hui, je me suis améliorée en fait, enfin, ou j'ai encore quelque chose à améliorer dans cette vie-là. Donc je me dois d'en informer les autres. Elle me dit ça, elle, la comédienne. Très bien. Alors maintenant, depuis qu'elle m'a dit ça, quand je la vois jouer cette scène de Shibuya, donc où elle est au milieu de cette foule, et ça, ce sont des vrais chiffres, hein, c'est-à-dire que il y a c'est effectivement à peu près le même nombre de gens qui traversent ce carrefour chaque jour. À Shibuya Crossing, ça s'appelle, que d'évaporer chaque année. Donc c'est complètement fou et on arrive mieux à se le représenter en observant ce carrefour. Et elle est dans une errance comme ça au milieu de ce carrefour et alors qu'elle se fait bousculer et que c'est un peu la tourmente, enfin c'est un endroit un peu cauchemardesque quand on est tout seul et qu'on est une personne âgée, j'imagine, pour traverser ce long passage. Elle a juste envie de dire aux autres, ce qui est important pour elle. Donc c'est un peu ma petite voix à moi qui résonne à ce moment-là, c'est-à-dire mais regardez-vous, écoutez-vous, si on pouvait observer la nature et ses lois, on serait sans doute moins triste, on serait libre, c'est ce qu'elle dit.
Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous croyez aux fantômes ?
Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à un fantôme s'il croit aux fantômes ? Ici, le fantôme, c'est moi. Dès lors qu'on me demande de jouer mon propre rôle dans un scénario filmique plus ou moins improvisé, j'ai l'impression de laisser parler un fantôme à ma place. Paradoxalement, au lieu de jouer mon propre rôle, je laisse, à mon insu, un fantôme me ventriloquer, c'est-à-dire parler à ma place. Et c'est ça qui est peut-être le plus amusant. Le cinéma est un art d'une fantomachie, si vous voulez. Et je crois que le cinéma, quand on ne s'y ennuie pas, c'est ça. C'est un art de laisser revenir les fantômes. Alors c'est ce que nous faisons ici. Donc si je suis un fantôme, c'est-à-dire si actuellement, croyant parler de ma voix, précisément parce que je crois parler de ma voix, je la laisse parasiter par la voix de l'autre, pas de n'importe quel autre, mais de mes propres fantômes, si on peut dire, à ce moment-là, il y a des fantômes. Et ce sont eux qui vont vous répondre, qui vous ont peut-être déjà répondu. Tout ça, c'est une... Aujourd'hui, ça doit se traiter, me semble-t-il, dans un échange entre l'art du cinéma, dans ce qu'il a de plus inouï, de plus inédit, finalement, et quelque chose de la psychanalyse. Je crois que cinéma plus psychanalyse égale science du fantôme. Vous savez, Freud, toute sa vie, a eu affaire au problème du fantôme. Voilà, le téléphone, c'est le fantôme. Je vais... Allô ? Yes ? Yes ? Yes ?
C'est Pascal Augier qui demande en 1983 au philosophe Jacques Derrida s'il croit aux fantômes. Et quand Pascal Augier pose la question dans l'archive, vous, dans le studio Delphine Equet, vous faites « oui, oui » avec la tête. Parce que vous y croyez avant de travailler sur les évaporés, parce que vous travaillez sur les évaporés parce que vous croyez aux fantômes. Parce que le théâtre, c'est forcément croire aux fantômes.
Moi, je sais pas. En tout cas, ils sont là. Enfin, je m'étais jamais vraiment posé la question est-ce que les fantômes existent ou n'existent pas.
Ce qui est pas la même chose. Hein. Est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'on y croit ? C'est pas tout à fait pareil.
Oui, j'y crois. Je me dois d'y croire parce que ça rejoint la question de la trace, c'est-à-dire que le fantôme serait comme la trace d'une existence passée, mais sous une autre forme. Donc je
Je pense en tout cas qu'on en donne une image très effrayante aujourd'hui, et c'est pour ça peut-être qu'on y croit de moins en moins. C'est que on ne veut pas croire à ce qui nous dérange. Moi, je pense qu'en tout cas il y a des présences, et ce sont ces présences-là, parce qu'on leur donne des noms, on leur dit que ce sont des fantômes. On a une vision comme ça très très enfantine du drap blanc percé de deux trous pour qu'ils puissent y voir quand ils se déplacent. Moi, je crois plus à des présences. En tout cas, des gens qui nous ont précédés, de nos ancêtres, mais pas que de nos ancêtres aussi, je pense, de figures, de légendes en fait. Et ce personnage d'Imiko, par exemple, dans la pièce, on ne sait pas d'ailleurs si elle est vivante, si elle est morte, et la question n'est pas là. Donc oui, je veux bien y croire, parce que si je n'y crois pas,
d'autant que si on écoute bien Jacques Derrida. Et puisque vous parlez de l'écriture, Delphine Equet, ça passe aussi par la langue. Il dit « dès lors que je parle et dès lors que je crois que je parle dans ma voix et en mon nom, en réalité, je me laisse ventriloquer par d'autres voix, je me laisse ventriloquer par la langue. Et qu'est-ce que c'est que la langue, sinon des fantômes qui nous ont précédés ?» Donc de toute façon, vous disiez tout à l'heure votre accroche primordiale à l'écriture. En fait, écrire, c'est aussi croire aux fantômes.
Oui, c'est évident. Enfin, c'est-à-dire que on dit fantôme encore une fois, mais c'est des. Quand je parle de présence, c'est-à-dire que quand on écrit, mais même quand on vit, on est habité par quelque chose d'autre que sa raison. Parfois, on est poussé. On fait des choses et on a été poussé à. Qui nous a poussé à, en fait, si c'est pas notre raison, notre état de conscience, il y a bien quelque chose d'autre qui se joue et qui est incompréhensible, et comme toute chose incompréhensible, on essaie de l'évacuer de notre vie. Mais quand on écrit, on a vraiment le nez en face de ça. On est obligé de se résoudre à ça. C'est-à-dire que parfois, quand on écrit, en tout cas moi, j'ai pas le sentiment de décider tout ce qui se passe au moment où j'écris. C'est-à-dire qu'il y a parfois des personnages qui ont besoin de dire cette chose-là, ou sinon alors ils n'existent plus sur le papier, ils n'existent plus du tout.
Et par qui vous vous laissez faire ?
Oui. Et je pense qu'il faut laisser faire l'écriture, c'est-à-dire que ou alors on se dire que c'est le fantôme en nous qui, enfin, où on est ventriloqué comme il le dit dans l'enregistrement, mais c'est très juste, c'est-à-dire que parfois on laisse faire l'écriture, on n'est pas maître de tout ce qui se dit et tout ce qui se passe, et quand on se relit parfois on se dit mais c'est pas possible, j'ai écrit ça, j'ai qui a dit ça, on oublie que ça a été dit par un personnage, mais en fait on est plusieurs à l'intérieur de soi quand on écrit, clairement.
Et on en revient à la question d'identité. Merci beaucoup Delphine Equet. Les Évaporeux, c'est jusqu'au 23 juin au Théâtre de la Tompette. Ça va tourner un petit peu ?
Ça a déjà tourné, j'espère que ça continuera encore.
On vous le souhaite, merci beaucoup.
Merci.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man.
À la réalisation aujourd'hui, c'était Lise-Marie Barré, à la prise de son Benjamin Vignal. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Valentin Rémy, Luc Vauvier, Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture, 22h. Quand vous voulez, franceculture.fr, le podcast, les références, des archives, des musiques. Et puis en fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi un petit endroit pour nous écrire, si jamais.
I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They
quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up on all of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next and in?
That time may change me.